Est-ce qu'on a le... la commande pour projecteur? Changer la source? Parfait. Merci. Pour ceux qui sont avec nous peut-être pour la première fois ce matin, on est dans une série ici à l'Église de l'Espérance sur la vie de David. David, Dieu l'appelle un homme selon son cœur. Moi, j'ai intitulé la série « Un cas qui bat pour Dieu ». Donc, on a plusieurs épisodes de traversée avec notre cher David. Et je vous invite à tourner dans vos Bibles, si vous avez votre Bible ou... une application sur votre téléphone, dans 1 Samuel, chapitre 27. Moi, je lis dans la version sommaire. 1 Samuel, 27. David réfléchit et se dit, « Un jour ou l'autre, Saül finira bien par me tuer. Ce que j'ai de mieux à faire, c'est de m'enfuir pour de bon » et de me réfugier au pays des Philistins pour qu'il renonce à me traquer dans tout le territoire d'Israël, ainsi j'échapperai à son emprise. Là-dessus, David se mit en route avec ses deux femmes, Ahinoam de Jézréel et Abigaïl, femme de Nabal de Carmel, ainsi qu'avec ses 600 hommes et leurs familles. Ils se rendirent chez Achish, fils de Maok, roi de Gath, et s'établirent là. On informa Saül que David s'était enfui à Gath, et il cessa de le poursuivre. David dit à Achish, « Si tu acceptes de me faire une faveur, autorise-moi à m'installer dans un village quelconque de ta campagne. Il n'y a pas de raison pour que ton serviteur réside dans la ville royale avec toi. » Alors Achish lui attribua ce même jour Tiklag. C'est pourquoi Tiklag a appartenu jusqu'à ce jour au roi de Juda. David demeura 1 an et 4 mois en Philistie. Pendant ce temps, il faisait avec ses hommes, des razzias, des raids, tour à tour, chez les Guéchouriens, les Guizriens et les Amalécites, des peuplades qui habitaient depuis très longtemps dans le pays qui s'étend en direction de Chour jusqu'à la frontière de l'Égypte. David ravageait cette contrée. Il ne laissait en vie ni homme ni femme. Il ramenait brebis, chèvres et bœufs, ânes, chameaux et vêtements, et à son retour se rendait chez Achish. Quand Achish lui demandait « Où avez-vous fait votre razzia cette fois-ci? » David répondait « Dans le sud de Juda ou dans la partie du sud du territoire sud des Yerahmélites ou des Kéniens. Il ne laissait pas de survivants pour ne pas avoir à les ramener à Gath afin qu'ils ne rapportent pas les agissements de David. » David suivit cette ligne de conduite pendant tout le temps qu'il séjourna en territoire philistin. Achish comptait de plus en plus sur David, car il se disait « Il s'est sûrement attiré la haine de d'Israël, son peuple. Il restera pour toujours à mon service. » À cette époque-là, les Philistins rassemblèrent toutes leurs troupes en une seule armée pour faire la guerre à Israël. Le roi Achish dit à David, « Tu dois savoir que toi et tes hommes, vous partirez en guerre avec moi. » David répondit, « Eh bien, tu verras ce que ton serviteur va faire. »« Bien, reprit Achish, je te nomme mon garde de corps à titre définitif. » Entre-temps, Samuel était mort et tout Israël avait pris le deuil à cause de lui. On l'avait enterré à Rama dans sa ville. D'autre part, Saül avait fait disparaître du pays tous ceux qui évoquaient les morts et ceux qui pratiquaient la divination. Prions. Oui, Seigneur, notre Dieu, à toi toute la gloire, à toi tout l'honneur. Ce matin, Seigneur, tu nous fais l'honneur d'être présent parmi nous. Dieu d'éternité, souverain créateur de tout ce qui existe, du temps, de l'espace, de la matière, de l'énergie, de toutes les lois invisibles et immuables qui régissent cet univers. Dieu saint, Dieu juste et Dieu bienveillant, Dieu qui s'est abaissé jusqu'à nous. Combien nos cœurs sont dans la joie ce matin, Seigneur, d'être en ta présence. Nous voulons, Seigneur, faire silence devant toi. L'Éternel est dans son Saint-Temple, que toute la terre fasse silence devant lui. On te demande, Seigneur Dieu, de nous donner par ton esprit sagesse et révélation pour te connaître. Viens éclairer notre intelligence. Illumine les yeux de notre cœur pour qu'on puisse te connaître. Tourne vers nous ta face, Père, et accorde-nous la grâce de bien comprendre, de saisir, d'avouer et de s'engager. Nous te prions. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci beaucoup pour ton témoignage, Angie. C'est gloire à Dieu. C'est jamais facile de dévoiler une partie de notre vie, hein? Surtout lorsque c'est une partie dont on n'est pas fier, qu'on peut expérimenter la honte. Et puis, c'est ce qu'on a dans l'histoire de David ce matin, une partie de sa vie que probablement, vers la fin de sa vie, il n'était pas tellement fier. Est-ce que vous aimeriez qu'on écrive sur papier puis qu'on publie toutes les fois que vous avez manqué votre coup, vous êtes égaré? On n'aimerait pas ça. Mais par la grâce de Dieu, on a les écrits de David, de la vie de David, qui ont été préservés jusqu'à notre temps. Et c'est pour notre instruction, chers frères et sœurs. C'est pour nous aider à saisir, par l'exemple, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner ce matin. Donc, comme j'aime faire, je vous donne le punch dès le début. Un cœur qui bat pour Dieu est en dialogue avec Dieu et compte sur sa grâce même après un épisode d'égarement. Moi, ça résume le message de ce matin. Donc, ceux qui sont pressés, vous pouvez partir. Vous avez l'essentiel du message. Ça va? Dialogue, égarement. Ça marche? Ce matin, je vais vous parler de la réalité du monologue intérieur. Nous avons tous, qu'on le sache ou non, ce monologue constant à l'intérieur de notre esprit. On est constamment en train de se parler. C'est pas juste moi qui le dis, tous les experts le disent, et souvent on n'est même pas conscient qu'on est en train de se parler, mais il y a un monologue constant dans notre tête, constant, constant, constant. David, qu'est-ce qui est marqué ici au verset 1 du chapitre 27? David réfléchit et se dit, parle à qui là? À lui-même. C'est son monologue intérieur. Il se dit, et si vous pensez que c'est bizarre que je suis en train de faire la psychologie, bien vous allez être mal pris parce que Jésus le dit aussi. Dans la parabole du fils prodigue, il dit que le fils s'est mis à réfléchir et il se dit, combien d'ouvriers chez mon père ont pain en abondance, etc., etc., je vais retourner vers mon père. Aussi, dans la parabole de l'intendant malhonnête, l'intendant se dit en lui-même, « Que vais-je faire? » C'est les paraboles de Jésus, là. OK? « Que vais-je faire puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens travaillés en terre? Je n'ai pas la force. Mendier, j'en ai pas honte. Je sais ce que je vais. » Il y a comme un dialogue avec lui-même, mais c'est un monologue. Force est d'admettre que ce monologue dans notre tête, chers amis, qui est sans arrêt. Et si vous ignorez ça, vous allez être en danger. C'est un fait. Que tu te rendes compte ou non, tu entretiens ce monologue avec toi-même constamment à travers la journée. C'est curieux, n'est-ce pas? Ça fait un peu comme Gollum qui a écouté le Seigneur des Anneaux. Gollum, quand il essaie de trouver une façon de trahir le maître Frodon qu'il aime et qu'il hait en même temps parce qu'il veut revoir le précieux, là. Et il entretient un dialogue avec lui-même, là, à travers la forêt. Il y a un Gollum qui parle, l'autre Gollum qui parle. Et puis, finalement, il trouve une solution. On discute avec nous-mêmes. Et la chose, c'est que ce monologue oriente nos décisions. C'est pour ça que je dis que si tu ignores ça ou tu ne veux pas le reconnaître, tu vas être en danger. Parce que c'est ça qui oriente ta vie, ce monologue intérieur. Ça oriente notre vie. On l'a vu dans les exemples que Jésus a donnés aussi. Le point ici, ce n'est pas que ce soit bon ou mauvais, mais c'est que c'est ça qui nourrit tes décisions. Et David se dit quoi? David se dit que Saül va finir par avoir ma peau. Il ne faut pas oublier que David, là, ça fait plusieurs années, on ne sait pas combien d'années, mais ça fait plusieurs années qu'il vit en fugitif, hein? Qu'il doit se cacher dans les fonds des ravins, dans les cavernes, qu'il doit voyager de nuit et réussir à survivre tant bien que mal. Comment il a survécu? Je ne sais pas. Il a survécu sur la bonté des gens, probablement. Il ne pouvait pas planter puis récolter, là. Il est en constante fuite. On l'a vu plusieurs fois. Sa vie en danger. Et puis, il réalise que des fois, c'est à la longue, hein, que les choses viennent, là, tellement lourdes qu'on se dit, il faut que je prenne une décision. Il faut que je prenne une décision. Puis la meilleure stratégie, ça serait quoi la meilleure stratégie? Je le sais. Je vais aller me cacher chez l'ennemi. Et là, Saül va renoncer. Il va renoncer à me poursuivre. Sa logique était solide, pas vrai? Sa logique était bonne, pas vrai? Sa logique était bonne. Des fois, la logique est excellente. Des fois, le plan semble excellent. Mais si la prémisse de base est faussée, si la chose sur laquelle notre logique est fondée est faussée, ben la conclusion va être faussée, même si ta logique, elle est bonne. Tu peux avoir une bonne logique, mais si le point de départ est faussé, le résultat sera faussé aussi. Pas vrai? Je peux être certain d'une chose, puis planifier en fonction et complètement me foirer à l'autre bout. Hein? L'année passée, on était en voyage vélo à Majorque, puis il y a une descente très, très célèbre qui s'appelle la descente de Sacolobois. C'est 10 km en descente comme ça vers la mer, et puis ça descend de presque 1000 mètres sur 10 km. Donc, nous, on part très tôt de ce qu'on était à l'hôtel. On fait comme 45-50 km. Puis là, il faut rouler parce qu'on voit qu'il y a un orage qui s'en vient. Et je suis le météo média là, qui me dit que je vois la carte radar. Mais ça s'en vient. Puis pour moi, c'est midi moins quart. Fait que je dis à Lorraine, on est capable de se rendre en haut puis se descendre avant que l'orage arrive. Ma logique était infaillible. Sauf que l'orage n'a pas collaboré. L'orage est arrivé à 1h30, puis on s'est fait poirer pas mal. Et puis, ça a été même dangereux. J'avais tellement froid en descendant. On a attendu que l'orage passe, là, mais il faisait tellement froid, il avait tellement chuté, la température a tellement chuté que ma roue avant, je grelottais tellement qu'elle faisait ça. Donc, est-ce que tu te rends compte que souvent tu te parles et que tu te crois et que tu t'orientes sur tes réflexions, mais t'es tout seul là-dedans? Ça nous arrive à nous tous. Hein? Mais question, pourquoi un monologue et non pas un dialogue? On a vu il y a quelques mois que l'être humain a été créé par Dieu. Pourquoi? Pour être en communion constante avec lui. L'être humain a été créé pour avoir Dieu au centre. Et l'image que je vous ai donnée, que j'aime beaucoup, c'est imaginez qu'on est fait de sciures de fer, là, de millions de petites sciures de fer, et Dieu, c'est un super aimant. Qu'est-ce qui arrive? Toutes les sciures s'enlignent avec l'aimant. L'être humain a été créé, toi et moi, nous avons été créés pour que notre être soit enligné dans toutes les dimensions, corps, âme, esprit, enligné avec Dieu, en communion, centré sur Dieu, en dialogue avec Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé? On s'est détourné de Dieu, le péché est venu briser la relation, et là où ce qui est supposé d'avoir un dialogue, il ne reste plus rien qu'un monologue. C'est triste. C'est triste. Il est supposé d'avoir un dialogue. Et tu es tout seul avec toi-même. Quand on écoute le film et on voit Gollum, on dit, « Ouais, mais sais-tu quoi? C'est toi et moi, ça. C'est toi et moi. Ça fait pitié, hein? On fait pitié. On est supposé d'être en dialogue avec notre Créateur. On a vu que à cause de cette cassure, toute l'humanité se retrouve un peu comme orphelin, orpheline. On est comme des orphelins parce qu'on a été coupé de notre Père céleste. Et les experts sont d'accord pour dire qu'un orphelin, même un bébé qui est adopté dès la naissance, un orphelin, a une blessure d'abandon. Qu'est-ce que ça fait une blessure d'abandon? C'est que je suis seul dans la vie. Je suis tout seul. Il n'y a personne qui va s'occuper de moi, donc je dois m'occuper de moi-même. Et souvent, cette pensée-là vous habite, m'habite, sans qu'on s'en rende même compte. C'est inconscient, c'est en fond de trame, là, c'est dans la trame sonore, dans le fond, là, tu ne l'entends pas presque, mais c'est là constamment. Je suis seul. Je dois me débrouiller tout seul. Parce qu'il n'y a personne qui va s'occuper de moi. Pourquoi? Parce que nous sommes coupés avec Dieu. Nous sommes comme des orphelins. Et on agit souvent. Je me rends compte moi-même que je me pense souvent seul. Même si je suis sauvé, même si j'ai Christ dans mon cœur, je réagis comme si j'étais tout seul. La preuve, c'est que je vis souvent des angoisses, souvent la tristesse, souvent la colère face à l'injustice. Pourquoi? Parce que je suis seul. Il n'y a personne qui va me défendre. Il n'y a personne qui va s'occuper de moi. Et tu viens d'en croire, peut-être comme moi, que personne ne peut prendre mieux soin de toi que toi-même. Ah, tu ne diras jamais en avant de l'Église, ça. Mais moi, je vous le dis. Moi, je vous le dis, là, ça m'habite, ça. Ça m'habite. Puis, sais-tu quoi? Je pense que ça t'habite aussi. Il n'y a personne qui va prendre mieux soin de moi que moi. C'est peut-être vrai par rapport aux êtres humains, mais là, on l'applique à Dieu aussi. Alors que Jésus enseignait quoi? Que le Père veut et peut prendre soin de toi, mieux que toi-même. Donc, je réfléchis, tu réfléchis, et puis on a cette pensée-là en arrière-plan. Et le problème, c'est que ton monologue intérieur, tu n'as pas accès à toutes les informations de l'univers. La base sur laquelle tu réfléchis souvent est faussée, influencée par toutes sortes de choses. Et même si ta logique est bonne, tu arrives à une fausse conclusion. Et ça t'égare, et ça m'égare. Mais toi et moi, nous n'avons pas été créés pour vivre seuls. Nous avons été créés pour vivre en relation, en dialogue, enligné avec notre Créateur. Il est supposé d'avoir un dialogue où il existe un monologue. La nécessité de développer le dialogue. Jésus nous a montré ça par sa vie, pas vrai? Il était en constant dialogue avec son Père. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir, dit Jésus. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui fait lui-même. Jean 5, 19, 20. Et je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. Jésus parlait constamment à son Père, qui lui démontrait qu'est-ce qu'il voulait. Il nous a démontré, Seigneur Jésus, par sa vie, que c'est comme ça qu'on doit vivre, en dialogue avec Dieu. Le psalmiste nous dit dans Psaume 105, verset 4, « Tournez-vous vers l'Éternel. » Pardon, je pensais que je l'avais à l'écran, désolé. « Tournez-vous vers l'Éternel, faites appel à sa force. » Regardez ça. « Aspirez à vivre constamment en sa présence. » Ah, j'aime ça. Ça, cette phrase-là, je l'ai adoptée, là, puis je l'ai mis là. Aspirer à vivre constamment en sa présence. Jésus marchait sur la terre, il était constamment en la présence de Dieu. Et moi, ça a reparti bout, hein? Puis même, je peux être plusieurs jours à comme ignorer la présence de Dieu. Aspirer à vivre constamment en sa présence. Paul dit aux chrétiens à Corinthe, ça m'a frappé l'autre jour, 1 Corinthiens 1:9. Il dit, « Car Dieu... qui vous a appelé à la communion, à vivre en intimité, en communion avec son Fils. » Et là, il continue. Il dit, « Wow! » Je répète, parce que vous n'avez pas l'air à dire « Wow! » Dieu, qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, est fidèle. Tu as été appelé à vivre en intimité avec Jésus. À vivre en intimité avec Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire en intimité? C'est une relation proche, proximité. On parle, on cœur à cœur, on se parle constamment. On est constamment en train de vérifier avec l'autre si tout va bien, si on est sur le même diapason. On se partage nos craintes, nos joies, nos peurs, nos aspirations, tout ça, on est appelé à ça. Dieu nous a appelés, Dieu t'a appelé à vivre en communion avec son Fils. N'est-ce pas merveilleux? Wow! C'est merveilleux! Donc, l'exemple de Jésus, c'est ce à quoi nous avons été appelés à vivre avec le Fils. Et, troisièmement, c'est que Jésus ne nous a pas laissés orphelins. Tantôt, j'ai dit, on est comme des orphelins, et ça m'a sauté à l'esprit parce que Jésus dit à ses disciples, « Je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelins. » Wow! Je ne vous laisserai pas orphelins. Pourquoi? Parce que je vais vous laisser mon esprit. Je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Il y a plusieurs... C'est parce que c'est un mot qu'on a de la difficulté à traduire en français ou même en anglais. Ce mot-là, paraclétos, ça peut avoir plusieurs nuances. Consolateur, conseiller, aide, avocat, défenseur, mais défenseur des intérêts du Père auprès de nous, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'esprit de vérité. On parlait tantôt qu'on est souvent sur des fausses prémices, des fausses bases. Bien là, on a un esprit de vérité qui va nous témoigner la vérité que le monde ne peut pas accepter. Ce n'est pas tout le monde qui a l'Esprit de Dieu. Il faut passer par Jésus pour avoir l'Esprit de Dieu. Le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et il ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviens vers vous. Hey, ce matin, j'ai une bonne nouvelle. Si tu te sens tout seul, là, si tu te sens comme un orphelin, là, Jésus dit, je ne vous ai pas laissé orphelin. Je ne vous ai pas laissé orphelin. Je vous ai donné mon esprit. Wow! Je peux-tu entendre des wow?
Wow!
Pourquoi c'est important tout ça pour ma vie, pour la tienne? Parce qu'on a vu que ça joue sur notre vie, sur les décisions qui orientent ma vie. La parole de Dieu dit, n'est-ce pas, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Garde ton cœur. Aspire à vivre constamment en sa présence. Mais attention, hein, c'est pas... Je lisais hier ou avant-hier un pasteur qui parlait que lorsqu'il avait été dans plusieurs conférences internationales, puis il disait que souvent, dans l'après-midi, il y a des ateliers dans ces conférences-là. Il dit, s'il y a un atelier sur découvrir la volonté de Dieu, là, il dit, c'est certain que plus que la moitié vont aller dans cet atelier-là. Mais il dit, tous n'ont pas la bonne motivation. Chercher la volonté de Dieu, là, c'est extrêmement populaire et important. Mais pourquoi ça serait important? Des fois, c'est parce que je veux réussir ma vie. Je veux savoir comment discerner la volonté de Dieu, mais c'est pour réussir ma vie. Ou pour éviter des problèmes. Ou ne pas me faire trouver en défaut si je fais une mauvaise manœuvre. Ce qu'on dit là, c'est d'abord et avant tout de vivre une intimité avec Jésus, comme j'ai dit. Le but, c'est de vivre en présence de l'Éternel. Ce n'est pas d'utiliser Dieu comme une boussole, comme ça, ou un GPS spirituel, juste pour m'aider moi à me démêler dans la vie. Vous comprenez la différence? Si ton but, ce n'est pas de vivre en communion avec Jésus, tout ce que j'en vais dire là, c'est zéro. On prend ça, on jette ça aux poubelles. Ça ne vaut rien. Mais là, David prend une décision qui semble stratégique et géniale. Se cacher chez l'ennemi pour se protéger. Et savez-vous quoi? C'est pas la première fois, on l'a vu, hein? On l'a vu, ceux qui étaient là. C'est la deuxième fois qu'il fait ça. Et pourtant, l'autre fois, ça avait mal été. Il avait failli perdre la vie en se réfugiant à Gath. Là, cette fois-là, il était tout seul. Là, il s'en vient avec une armée de 600. Fait que, il sent, je pense, plus fort, là. Il s'en vient avec une armée de 600. Là, le roi de Gath, il est obligé de le prendre en considération, là. Puis David, il a toute une renommée aussi, là. Mais David prend une décision basée sur son raisonnement, qui est basée sur une prémisse. C'est quoi la prémisse? Verset 1, chapitre 27. « Un jour ou l'autre, Saül finira bien par me tuer. » Est-ce que cette promesse-là, elle est vraie?
Non.
Non, pourquoi? Pourquoi elle n'est pas vraie?
Parce
que l'Éternel lui avait promis qu'elle allait régner sur l'Israël. Donc, cette promesse-là, elle est faussée. Vous voyez comment est-ce qu'on peut, en étant seul, tout seul avec nos réflexions, on peut s'égarer. Si Dieu n'est pas dans le portrait, si Dieu n'a pas fait de promesse, ben oui, c'est logique, c'est bon, vas-y David, c'est normal. Au point de vue humain, ça a du bon sens, hein? Ça a du bon sens. C'est une bonne stratégie. Mais la prémisse est faussée, parce qu'il a oublié que Dieu avait promis de prendre soin de lui, parce qu'il va le faire régner sur Israël. Et là, David se soustrait de la protection de Dieu. Il tombe dans l'autoprotection. L'autoprotection. Si David s'était dit, Dieu m'a, il a promis que j'allais régner, il va me protéger. Là, je me tiens sur le roc. Je me tiens sur le roc de la promesse de Dieu. Il faut les connaître, les promesses de Dieu. Puis là, tu peux tenir sur la roc. Mais si tu oublies ou tu ne crois pas vraiment à ses promesses, tu es obligé de continuer comme tout le monde, un orphelin qui doit se débrouiller, et là, tu tombes sous l'autoprotection. Et ça, ça fait partie, les amis, d'une vie, comment? Égocentrique. On a vu quoi? Autonomie. On a vu quoi? Autosuffisance. Auto-justification, autodidacte, autoprotection, toutes les autos, là, pas ceux-là dans le cours, ceux-là ici, là, regardez-moi, ça fait partie d'une vie égocentrique, centrée sur soi. Alors que nous sommes appelés à vivre une vie, comment? Christocentrique. Alors, David tombe dans l'autoprotection. Et il va s'enfuir à Gath. Est-ce que tu es conscient que tu tombes là-dedans toi aussi des fois? C'est possible que tu tombes là-dedans. Dans quel domaine de ta vie est-ce que tu te sens seul? Ça, c'est une bonne question à se poser. Je me sens seul dans quel domaine de ma vie? Pourquoi? Pourquoi c'est tellement important? Parce que si tu te sens seul, là, c'est parce que tu es en train de vivre ton monologue intérieur. Tu n'es pas en train de vivre en communion, en présence de l'Éternel. Et là, tu es en danger d'agir selon ton propre monologue interne. Dans quel domaine de ta vie te sens-tu seul? Dans quel domaine de ta vie réfléchis-tu dans ton cœur qu'avec tes propres pensées? Est-ce que tu as dit quelque chose dans ton cœur comme David, la meilleure chose pour moi dans tel domaine, ça serait boum. La meilleure chose à faire pour moi dans la vie, c'est boum. X. Réfléchis là-dessus. Demande à l'Esprit de t'éclairer. Puis des fois, on a des vérités cachées dans nos cœurs. Ce n'est pas des vraies vérités, mais c'est des vérités qu'on a acceptées comme vraies. Et ça va un peu comme ceci. La phrase qu'on pourrait écrire, c'est « La vie va bien aller pour moi si… » La vie va bien aller pour moi si telle chose arrive. Telle chose arrive, telle chose arrive. Ça, c'est des pensées, des réflexions issues de ton monologue qui vont diriger ta vie. Je donne un exemple. La vie va bien aller pour moi si mes enfants sont heureux. Ben, c'est pas normal de vouloir que tes enfants soient heureux. Oui, c'est normal. Mais si ta vie va bien à cause de ça, ce n'est pas une réflexion basée sur un dialogue, centré sur Dieu. Là, tu centres ta vie sur toi-même. C'est une pensée qui vient de l'égocentrisme, à l'extrême. Je ne dis pas que ce n'est pas normal de vouloir que ses enfants soient heureux, mais si ta vie va être pourrie si tes enfants ne réussissent pas, là, on a un problème. Ça devient un élément dirigeant, ça devient même un idole. Et là, David tombe là-dedans. La vie va bien aller pour moi si je peux enfin me mettre en sécurité de Saül. Et c'est ça qui est le plus important. Et je prends les moyens pour le faire. Au lieu de me réfugier en Dieu et de le laisser me protéger. Bon, on doit accélérer. Les conséquences maintenant de se diriger par son raisonnement. Au début, tout va bien. Tout baigne dans l'huile, comme on dit. Ça roule sur des billes. Son plan marche à merveille. Saül, c'est marqué que Saül renonce à poursuivre David. Super. Son plan marche. C'est A1. C'est, regarde, je vous l'avais dit, les gars, hein? David, il peut dire ça à ses hommes. T'avais raison, hein? Et yes! High five. Fait que ça marche bien. Puis sais-tu quoi? Quand tu prends une décision là, basée sur ton monologue intérieur, sans faire référence à Dieu, ses promesses, etc., ça peut bien aller pour un temps. Ça peut bien aller pour un temps. Ça peut bien réussir pour un temps. Mais il va inévitablement avoir des conséquences. David se réfugie à Gath. Ça va bien. Mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui fait David? David commence à jouer la comédie. Il vit une vie double. Pourquoi? Parce qu'il fait des raids avec ses hommes dans le sud du pays d'Israël contre les ennemis d'Israël, ça c'est correct. Mais il revient à Gath, puis il dit, Gath, le roi, il dit, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Puis David, il ment. Il dit, j'ai attaqué des associés, des peuples qui sont des associés à Israël. Donc, il ment à Achish. Il vit une vie double. Bon, là, tu vas me dire, ben, c'est pas grave, parce qu'Achish est un païen de toute façon. C'est un Philistin, c'est des ennemis de l'Éternel. C'est pas grave s'il lui ment. Ah oui, OK, c'est pas grave s'il lui ment. Mais ça va se complexifier. Parce que David vit tellement un compromis, il joue tellement bien la comédie, qu'il gagne la confiance d'Achish au roi au point que Achish va l'inviter à se joindre à lui pour aller se battre contre Israël. Ouh! Là, ça commence à être serré, ça commence à chauffer, là. Il a tellement gagné la confiance d'Achish. Achish est tellement impressionné de David que, écoutez, Achish, il commence même à révérer l'Éternel. Regardez, chapitre 28, versets 1 et 2. Ça, c'est l'invitation d'aller à la guerre. Chapitre 29. Non, pas ça. 28, verset 29. Non, c'est pas ça non plus. Excusez-moi, là. OK, pardon. 29, verset 6. Finalement, Achish appelle David et dit, « Aussi vrai que l'Éternel est vivant. » Quoi? Un Philistin qui dit, « Aussi vrai que l'Éternel est vivant. » Ça, c'est une phrase que les Israélites disent. « Aussi vrai que l'Éternel est vivant. » Achish est tellement impressionné par David qu'il commence à révérer le Dieu de David, tout en ignorant que David est en train de le duper. Est-ce que c'est normal pour un enfant de lumière de vivre dans les ténèbres? Et là, David va accepter d'accompagner Achish. Wow! Et il dit, tu verras bien ce que ton serviteur fait. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va se battre avec les Philistins contre les Israélites, son propre peuple, et trahir son peuple? Ou est-ce qu'il va se tourner contre Achish et se battre contre les Philistins? On ne sait pas vraiment. Moi, je pense que c'est probablement la deuxième option qu'il aurait choisie. Mais de toute façon, il est en train de se diriger vers un cul-de-sac. Parce que d'un côté ou de l'autre, ben c'est sûr que s'il attaque Israël, c'est foutu, il s'en prend au peuple de Dieu, là. Mais de l'autre côté, s'il trahit Achish, il est en train de détruire le témoignage de l'Éternel, le Dieu des armées, qui est un Dieu quoi? De vérité. Il a vécu un mensonge pendant 1 an et 4 mois. Il va détruire le témoignage de l'Éternel. Face à cet homme qui croit en David. Souvent, lorsqu'on prend une direction basée sur notre monologue intérieur à l'exclusion de la direction du Saint-Esprit, ça nous conduit à faire des compromis. Ton engagement envers Dieu et son peuple prend le bord. Tu t'étais engagé à t'occuper d'un tel ou tel ministère dans l'Église, mais là, ah, c'est impossible, j'en ai trop sur mon assiette. Mais qu'est-ce qui t'a amené là? Quelle réflexion t'a amené à être trop occupé que là, tu fais le compromis de tasser tes premiers engagements? Ou bien, tu fais des promesses à tes enfants un mois, et le mois suivant, il faut que tu inventes des excuses pour l'expliquer pourquoi c'est impossible de tenir tes promesses. C'est triste, ça. Ou bien, tu avais promis à la voisine d'aller lui rendre visite, et même tu avais l'intention de commencer une étude sur l'Évangile avec elle, puis là, ben, j'ai pas le temps, il faut que je travaille. Ah, il faut travailler. Pourquoi travailler? C'est quoi le besoin? Ah, il faut que je m'occupe, il faut que je pourvoie. OK. Est-ce que Jésus n'a pas dit qu'il allait s'occuper de toi si tu priorisais son royaume? Donc, on a oublié cette promesse-là et on s'est basé sur notre logique et ça nous amène à faire des compromis, à tasser les engagements, à tasser les choses importantes de Dieu pour faire ce que dans notre tête, il faut faire. Finalement, les Philistins refusent de voir David. Ils ne sont pas fous, les autres Philistins, là. Ils se doutent bien que David va se retourner contre eux. Puis ils disent, non, retourne, on ne veut pas de lui, on ne veut pas de ses hommes. Ils rebrouent Achish. Puis David et ses hommes sont obligés de retourner à Tsiklag, leur ville. Et qu'est-ce qui se passe? On n'a pas le temps de le lire. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils arrivent là et c'est la catastrophe. La ville a été attaquée, la ville a été brûlée. Et tous les occupants ont été amenés captifs. Toutes les familles des hommes de David. C'est la catastrophe. Le désastre total vient de frapper David. Pire encore, ces hommes poussés par la rage du deuil parlent de le tuer, de le lapider de roche. Et David, il nous est dit au chapitre 30, si vous voulez tourner, David était dans une angoisse extrême, au verset 6 du chapitre 30. Souvent, quand on se retrouve dans la catastrophe, commence à se poser des questions. C'est bon. Pourquoi Dieu permet ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Quand les choses s'écroulent autour de toi, mon frère, ma sœur, là, et tu te rends bien compte que Dieu est loin, pose-toi la question suivante. Depuis quand? Je me suis égaré. À quel moment, quelle décision j'ai prise qui m'a conduit là? Et comme notre sœur Angie a dit, c'est difficile de s'avouer ça. C'est difficile parce qu'on est orgueilleux. On ne veut pas admettre nos péchés. Mais si tu te trouves dans cette situation-là, je t'encourage à reculer. Recule. Peut-être tu vas devoir reculer un an, deux ans, trois ans même, avant que tu réalises, c'est là que j'ai pris une décision sans consulter Dieu ou sur des bases de fausses prémices sans compter sur Dieu. Mais sais-tu quoi? C'est une grâce. Ça, c'est une grâce. Que Dieu permette qu'il arrive des conséquences dans ta vie, c'est une grâce, parce qu'il veut que tu reviennes à lui. Et là, rentre en toi-même, comme le fils prodigue, c'est marqué, il rentrait en lui-même, et il se dit, monologue, mais toi, c'est encore mieux, tu peux amorcer un dialogue. Rentre en toi-même et amorce un dialogue avec Dieu. Pose-lui la question, Seigneur, montre-moi quand je me suis égaré de toi. Et là, on réalise que notre dialogue n'était plus là avec Dieu. Tout ce temps-là, on a vécu avec un monologue. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et là, ça c'est, je sais qu'on est, c'est presque terminé, mais manquez pas ça. Avec tout ce qui est arrivé, là, puis là, les hommes sont en train de dire, « Hey, David, là, moi je veux le tuer, moi aussi. » Okay? Il a tout perdu, puis là, ces hommes veulent le tuer. David est dans une grande angoisse, mais qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne vers Dieu. il se tourne vers Dieu. Il dit, ben, attends un peu, David, là. Dieu va être fâché contre toi, là. Dieu, il ne sera pas de bonne humeur. Hein. Pense que ce ne sera pas une bonne idée. Ça, c'est Satan qui parle. Ça, c'est Satan qui te parle dans ce temps-là. Tourne-toi pas vers Dieu, il est choqué bien noir contre toi, là. Regarde ce que tu as fait, regarde. Penses-tu qu'il va t'accepter? Penses-tu qu'il va t'accueillir? Oublie ça. La chose la plus fulgurante dans toute cette histoire-là, pour moi, là, c'est là. David se tourne vers l'Éternel. Quoi? Ben oui, parce qu'il sait que Dieu est gracieux. Dieu est un Dieu de grâce. Et tout ce que Dieu attend de toi et moi, là, mon ami, quand tu t'es égaré de lui, là, c'est que tout simplement tu te tournes vers lui. Il est là. Il a toujours été là. Même quand tu ne voulais pas lui parler, il a toujours été là, il est encore là et les bras ouverts. Viens. Il t'a juste à tourner, t'as juste à te repentir, à reconnaître. J'ai péché, Seigneur. Et là, ce qui est merveilleux encore, c'est que David, après ça, il s'est marqué, puise de nouvelles forces en se confiant à l'Éternel son Dieu. Et la première chose qu'il fait, les gars, on va attaquer, on va suivre. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle le prêtre. Abiathar, viens avec l'éphod, on a vu ça l'autre fois. Viens, on consulte l'Éternel. Est-ce que je dois poursuivre? Ah, c'est merveilleux ça là. Hein? Il ne s'est pas fié à sa logique. Il ne s'est pas fié à la pression de ses hommes. Il a dit, est-ce que, Seigneur, tu veux que je poursuive l'ennemi? Oui. Est-ce que je veux réussir? Oui, vas-y. Il recommence à dialoguer avec son bon berger. N'est-ce pas merveilleux? Tourne-toi vers ton bon berger ce matin, il est toujours là. Reprends courage en t'appuyant sur l'Éternel ton Dieu. Amorce un nouveau dialogue avec lui. Ce qui est fantastique, la bonne nouvelle, c'est que Dieu est là. Il veut te recevoir, il veut t'écouter, il veut te diriger, il veut que tu vives constamment en sa présence. C'est une grâce difficile parce qu'il faut faire violence à mon orgueil, reconnaître que j'ai péché. Mais c'est une grâce qui est toujours accessible. Fait que si ce matin l'Esprit de Dieu te parle, écoute sa voix. Je sais que ça peut être difficile d'avouer une faute, de confesser que je me suis égaré, de revenir sur une décision. Et personne n'aime ça, là, perdre face, je me suis trompé. Surtout s'il y a d'autres personnes alentour là, qui vont peut-être en payer les conséquences. Personne n'aime s'exposer au mépris, au ridicule des autres, parce qu'on s'est engagé sur une mauvaise voie. Et combien de temps vas-tu continuer à vivre ta vie comme si tu étais toute seule, comme un orphelin, alors que Jésus t'a donné son esprit, il veut être là pour toi. Amen. Fait que le groupe va venir pour un dernier chant.